Merci pour cette invitation qui nous a été adressée. Je suis souvent invité à Paris, mais j'hésite souvent à répondre positivement aux invitations parce que je ne maîtrise pas la langue française. J'ai eu de nombreuses opportunités pour apprendre le français, mais malheureusement, à cause de mon emploi de temps très chargé, je n'ai pas pu poursuivre cet effort d'apprendre cette belle langue. Je suis là pour présenter une thématique. D'ailleurs, mon intervention est rédigée en français et vous l'avez devant vous. Je ne vais pas lire mon intervention, mais vous trouverez les détails dans mon document. Je vais me contenter d'aborder les principaux points qui figurent dans mon intervention. Vous aurez l'opportunité, je l'espère, d'y jeter un coup d'œil. Il s'agit d'un résumé de mon ouvrage sur la transition démocratique dans le monde arabe, les succès, les échecs. Tel sera le titre de mon ouvrage. Je suis pleinement convaincue que les sciences sociales et les sciences politiques sont des domaines d'étude, des area studies. En Allemagne, en France, au début du 19e siècle, lorsque nous avons assisté à l'émergence des sciences sociales, il s'agit d'études régionales qui avaient été mises en place pour aller vers la modernité en Europe. Par la suite, des principes généraux en ont découlé et qui ont constitué les fondements des sciences sociales, de la sociologie. Mais à la base, les sciences sociales, la sociologie, étaient des domaines, des études de thématiques, des area studies. Mais en réalité, il s'agit donc de sciences, les sciences que nous, sciences sociales telles que nous les connaissons dans le monde arabe émanent de l'Europe. Et je ne peux pas considérer aujourd'hui que dans le monde arabe, nous pouvons parler d'études thématiques, alors qu'en Europe, ce qui prévaut, ce sont les sciences universelles, les sciences sociales universelles. Je voudrais essayer d'aborder avec vous cette transition démocratique dans le monde arabe en me basant sur l'étude que j'ai menée en la matière. Je vais utiliser certains termes qui découlent de mon expérience et qui découlent des sciences sociales et de ce que l'on a appelé tout au long des deux ou trois dernières décennies la transition vers la démocratie. Donc, je vais aborder certains termes, une terminologie bien spécifique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier le Collège de France de m'avoir donné cette opportunité d'être présent parmi vous. Je remercie tous ceux qui m'ont permis d'être présent afin d'approfondir cet échange et cet échange intellectuel. Ce qui se passe actuellement au Liban et en Irak, après cette expérience syrienne que nous avons connue, et après cette crainte que nous avons remarquée en Europe et même chez nous dans notre région, l'on a dit que le Mashrek était en train de faire face à un véritable risque de division ancré. Et ceci nous ramène aux ouvrages de Simon Marset-Lipset et aborder la notion de l'unité de l'État et les études de transition démocratique depuis Roscoff dans les années 70. Ce dernier avait dit qu'il fallait que l'on s'unissait autour du concept de l'État pour qu'il y ait un État. Il est important d'avoir cette unité autour du concept de l'État et qu'il était indispensable que cette condition soit remplie pour que l'État se concrétise. Aujourd'hui, nous voyons des révolutions et des révolutions qui ont mené à des guerres civiles. Mais ce qui se passe actuellement au Liban et en Irak, à mon avis, il s'agit là d'une réaction quant à la révolution syrienne ou ce qui a eu lieu en Syrie.
Aujourd'hui,
il y a ce principe de la citoyenneté, ce principe ancré de la citoyenneté. Alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Irak et au Liban serait attribué, à mon avis, au principe de cette citoyenneté. Je pense que l'État, c'est l'entité qui est en charge de réguler cette relation entre l'individu et l'État. Et il faudrait refuter l'idée du confessionnalisme ou des appartenances communautaires. Or, ce qui se passe aujourd'hui en Irak et au Liban, c'est que ce refus vient de la base même. Parce qu'en général, ce sont les élites politiques qui devraient être les plus attachées à l'unité d'un État. Mais ce qui se passe actuellement au Liban et en Irak est véritablement bizarre, parce que c'est la base même qui est à l'origine de ce refus, alors que les élites politiques font le contraire et s'en tiennent et se cramponnent au confessionnalisme, à l'appartenance communautaire. Certains leaders affirment aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre alternative au régime communautaire, malheureusement. Et ceci est un véritable dilemme, à mon avis, parce que la culture politique de l'élite qui est au pouvoir dans ces pays, cette culture est obsolète par rapport à la culture du citoyen qui s'en tient à sa citoyenneté. Donc, j'ai commencé par vous parler de l'Irak et du Liban pour vous parler de cette révolution culturelle et politique. Mais je ne pense pas qu'au Liban et en Irak, l'on pourra aboutir à la chute du régime directement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un pouvoir permettant cette chute de régime, que ce soit au Liban ou en Irak, ça diffère. C'est différent par rapport à ce que l'on a connu en Égypte ou dans d'autres pays. Quand vous avez un régime à plusieurs têtes, il est difficile de trancher toutes les têtes d'un coup. Donc, mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a un début, des prémices auxquelles nous assistons au Liban et en Irak, et qui vont s'étendre ailleurs. En d'autres termes, au Liban et en Irak, et pour la première fois depuis 150 ans pour le Liban, par exemple, depuis plus de 150 ans au Liban, et pour l'Irak depuis 2003 uniquement, pour la première fois, nous assistons à un courant principal, un mainstream, un courant principal dans le Mashrek qui est anti-confessionnel, un courant qui est contre l'appartenance communautaire. C'est la première fois que nous assistons à ceci, par exemple, au Liban depuis 1963. Il y a toujours eu des mouvements anti-confessionnels, mais elle avait pour source des courants marginaux dispersés ici et là. Mais c'est la première fois que nous assistons à mainstream, un courant principal émanant de la société. C'est un courant principal qui refute le confessionnalisme. Et je pense que la mesure louable qui a été prise au Liban doit être saluée, puisque les jeunes sont sortis dans la rue en se basant sur des valeurs morales et non pas sur des idéologies. Donc ils se basent sur des valeurs morales et non pas sur des idéologies. Et ce, contrairement à ce qui avait eu lieu lors de la Révolution française. La Révolution française n'a pas causé la chute d'un régime, a changé la nature de tout un pays en causant la chute des régimes de l'époque. Mais au Liban et en Irak, nous voyons que la base, ce sont ces valeurs morales qui ont mené les jeunes à aller dans la rue. Après le coup d'État du 3 juillet 2013 en Égypte, et après le retour de l'autocratisme, et vous savez que ce retour de l'autocratisme est encore pire que l'autocratisme qui prévalait avant, donc Nous avons assisté à ce retour vers le doucratisme, à cet échec, et il s'est avéré que ce qui avait eu lieu en 2011 ou en 2013 n'était qu'une première vague de révolution qui serait suivie d'autres vagues de résolution, et que les graines de la liberté dans le monde arabe avaient été semées déjà, et que ces graines étaient en train de croître et de donner lieu à un véritable arbre dont les branches s'étalent vers l'ensemble du monde arabe. D'ailleurs, ce qu'on voit, ce qu'on a vécu au Liban et en Égypte, c'était une vague qui n'a pas pu malheureusement permettre cette transition démocratique. La transition vers la démocratie n'est pas un thème anachronique. Il ne s'agit pas d'un thème obsolète, il s'agit du thème de l'époque, du moment. Cette transition vers la démocratie est un thème qui va nous accompagner tout au long du siècle à venir. Je pense que ce qui se passe actuellement dans le monde arabe actuellement ressemble beaucoup à ce que l'Europe a connu en 1889 et par la suite. Je pense que ce à quoi nous assistons dans le monde arabe va durer au moins pour un demi-siècle à venir. Bon nombre de chercheurs ont étudié cette transition vers la démocratie en se basant sur la théorie de la modernisation. Cette théorie de la modernisation Cette théorie donc de la modernisation a abordé ce transfert des sociétés traditionnelles vers les sociétés modernes. En Europe et en Amérique du Nord, on a considéré la modernisation comme ce passage d'une société traditionnelle vers une société moderne. Marx et d'autres ont parlé de la transition vers la démocratie comme étant une modernisation. Ce lien entre la modernité ou la théorie de la modernisation et la démocratie a commencé à se faire voir lors de la guerre froide. C'est durant cette guerre froide que nous avons assisté à ce lien. Robert Dahl et d'autres ont abordé des théories sur la démocratie pour expliquer les principes du régime démocratique, comment le conserver, pour contrer le socialisme de l'époque. Il y a eu plusieurs tentatives visant à lier entre la modernisation et la démocratie avec Martin Lipset, qui a parlé des prérequis sociaux de la démocratie. Il a abordé ces prérequis de la démocratie et son ouvrage est devenu une véritable référence en la matière. Il a parlé de la taille de la classe moyenne, du niveau d'éducation, du taux d'urbanisme. Il a également parlé de la légitimité, à savoir la capacité du régime à émettre des idées qui seraient les mieux à même de résoudre les problèmes de la société. Par la suite et après, à la fin de la guerre froide, ou même un peu avant la fin de la guerre froide, et plus précisément dans les années 70, il y a eu un véritable développement majeur en Europe du Sud, en Grèce, au Portugal, en Espagne. Ces pays se sont dirigés vers la démocratie. S'en est suivie une vague vers la démocratie en Amérique latine. Avec cette transition vers la démocratie, un nouveau courant est apparu, puisque des chercheurs d'Amérique latine et des États-Unis mené des études sur la transition vers la démocratie. D'ailleurs, ils lui ont donné une appellation, la transitologie, c'est-à-dire la transition vers la démocratie. Et ils l'ont accompagné d'une critique de la théorie de la modernisation en se basant sur une approche libérale et non pas en se basant sur la théorie théorie de l'indépendance. Donc ces derniers, ces chercheurs, se sont dit, est-ce que les pays du tiers-monde doivent attendre que la classe moyenne s'élargisse, qu'il y ait suffisamment d'éducation pour réaliser la démocratie? Certains considèrent que nos peuples ne sont pas prêts pour la démocratie. Est-ce que ceci peut être qualifié de théorie? Donc c'est ce qui avait donné lieu à cette théorie de la démocratie. Donc, il y avait ce courant qui était pour la démocratie dans ces pays du tiers-monde, et ces chercheurs étaient convaincus qu'il n'était pas nécessaire que ces conditions, que ces prérequis soient remplis pour pouvoir arriver à la démocratie. Donc, tous les prérequis, les conditions de la théorie de la modernisation n'étaient pas remplies en Europe lorsque cette théorie a été montée et lorsque l'Europe s'est dirigée vers la démocratie. Ces chercheurs estiment donc que le libéralisme était à un moment donné limité à une minorité et puis ça s'est élargi au point où la démocratie a pu s'installer. Les théoriciens qui étaient à l'origine de la théorie de la modernisation nous disent qu'il faut avoir suffisamment un taux d'éducation élevé, il faut l'élargissement de la classe moyenne pour réaliser la démocratie. Ces chercheurs ont essayé de démontrer le contraire. Les chercheurs ont essayé de montrer que ce qui leur était demandé, c'était les résultantes de la démocratie et qu'il fallait commencer par la démocratie pour arriver à remplir ces prérequis. Ceci a été réellement réalisé à la fin de la guerre froide, lorsque certains pays ont estimé que les peuples des pays du tiers-monde n'étaient pas prêts. Il y avait cette argumentation basée sur une apologie en se disant que voilà, les pays de la région sont sous des dictatures parce que les peuples ne sont pas prêts pour la démocratie. Mais à la fin de la guerre froide, la donne a changé. Et les peuples ont exprimé leur souhait pour la démocratie. Et après la guerre froide, l'alliance avec les dictatures n'était plus indispensable. Et par conséquent, les États-Unis d'Amérique n'étaient plus anti-démocratie ou contre l'installation et l'adoption de d'un régime démocratique dans ces pays. Dans ces pays du tiers-monde. Je voudrais vous dire que la guerre froide a pris fin partout dans le monde, sauf à l'exception du monde arabe. Et là, c'est une remarque très importante, parce que souvent on parle de cette exception arabe. Or, l'exception n'est pas une exception arabe. En vérité, le camp dirigé par les États-Unis d'Amérique, qui s'est toujours prétendu comme étant le garant de la démocratie face au communisme à la fin de la guerre froide. Pour ce camp, précisément, la guerre froide n'a pas pris fin dans le monde arabe. Et ce camp traite toujours avec la même logique dans le monde arabe, comme c'était le cas durant la guerre froide. Il s'allie toujours avec les dictatures, et ce, parce qu'il craint trois choses. Il a des craintes pour la sécurité d'Israël, et ce, par les élections arabes qui ont lieu tous les quatre ans, des élections à résultat incertain. Ce camp tente de mettre en place des transactions et en garantissant la continuité de ces dictatures qui sont en place. Je peux vous donner les exemples de Hafez al-Assad et Bachar al-Assad qui, les Américains vous disent, sous le régime Assad, les armes n'ont jamais été pointées en direction d'Israël, même si c'est un régime de dictature. Donc, il est à garder. Il y a une autre crainte, à savoir le pétrole. Peut-être que cette crainte est de moindre importance par rapport aux autres craintes préalablement mentionnées. Et la troisième crainte est ce qui est qualifié de terrorisme islamique. Je pense que le terrorisme émane de beaucoup de facteurs, dont ce despotisme de la part des régimes arabes. Je pense que c'est cette dictature et ce despotisme qui ont donné lieu, personnellement, c'est ce que j'estime, qui ont donné lieu à ce terrorisme. Donc, c'était là une remarque ou ma remarque. Je reviens au vif du sujet. Après la guerre froide, les études de transition démocratique ont critiqué les idées véhiculées par la théorie de la modernisation. Je pense, et je le dis dans mon ouvrage qui va bientôt être publié, je pense que l'on ne peut pas passer outre les premiers principes de la théorie de la modernisation pour ce qui a trait de la consolidation de la démocratie. Donc, lorsque nous parlons de la consolidation de la démocratie, il s'avère qu'il est difficile de le faire sans un certain niveau économique, sans un certain taux d'éducation, etc. Une fois la transition a lieu, le nouveau régime démocratique doit prendre en compte les prérequis sociaux et économiques de la démocratie. À mon avis, les prérequis les plus importants sont ceux ayant trait à l'éducation. Je pense que j'aurai besoin d'un peu de temps pour le prouver, mais même les statistiques montrent qu'il y a une corrélation entre l'éducation et la démocratie, et cette corrélation dépasse tout autre coefficient, comme par exemple le niveau de vie ou autre. Mais pour le moment, il m'est difficile d'aborder ce sujet précisément dans le cadre de cette intervention. Pour revenir au monde arabe, la deuxième vague de la transition démographique a lieu lorsque le camp socialiste s'est dirigé vers la démocratie. C'est à ce moment-là que l'on a parlé que dans le camp socialiste, il y avait les prérequis de base, c'est-à-dire un taux d'éducation. Mais il y avait un autre facteur auquel des chercheurs comme O'Donnell, Guillermo O'Donnell ou Schmitt ou autres, n'ont pas fait attention. Ce facteur a été remarqué par Linz et Stefan, à savoir que dans le camp socialiste, il ne faut pas passer outre le facteur externe. Le camp socialiste s'est dirigé vers la démocratie, mais nous ne pouvons pas comprendre cette transition vers la démocratie sans comprendre les réformes qui ont eu lieu au niveau de l'Union soviétique de l'époque. Donc, il y avait un facteur externe qui a eu un impact et qui a mené vers cette démocratie. Dans le monde arabe, en 2011, des révolutions spontanées ont vu le jour. Les gens sont sortis dans la rue pour réclamer la lutte contre la corruption, pour se débarrasser de cette corruption, pour lutter contre cet autoritarisme, cette autocratie. C'est ce que nous avons vu récemment en Irak, au Liban, au Soudan et dans d'autres pays. Il y a un autre point que je tiens à évoquer pour attirer l'attention de nos amis français, un point qu'il ne faut pas sous-estimer, celui de la dignité humaine, la dignité humaine. En Tunisie et en Égypte, la révolution a eu lieu parce qu'il y avait des atteintes physiques. Donc, les citoyens étaient attaqués physiquement. C'est ce qui a suscité la colère de la population et a causé cette révolution. Le monde arabe était gouverné par des régimes qui ne respectent pas la dignité humaine et qui ne respecte pas l'être humain. Donc l'humiliation a été à l'origine de la révolution tunisienne. Des atteintes physiques ont été perpétrées. Donc c'est ce qui a causé cette révolution. Vous vous souvenez sans doute de Khaled Saïd qui est mort sous la torture. Et le jour où l'on célébrait, la création de la police, c'est ce jour-là que les gens sont sortis dans la rue pour se révolter contre le décès de cet homme-là qui est mort sous la torture. Donc il ne faut jamais sous-estimer la dignité humaine. Je pense même que ce facteur de dignité humaine a joué un rôle très important en Syrie. L'humiliation et cette humiliation perpétuelle, continue, qui atteint même non seulement, ce n'est pas seulement une humiliation morale, mais une humiliation physique qui atteint les citoyens. Et c'est ce facteur-là qui a été à l'origine de ces révolutions. Et je pense que les Arabes ont eu quelque chose à ajouter à cette théorie de la transition vers la démocratie. Nous avons eu notre valeur ajoutée. Ce qui prévalait avant, c'était des réformes qui venaient du haut de la pyramide. Les réformes provoquaient des dissensions, des divisions. Des négociations avaient lieu entre les modérés de l'élite au pouvoir et les modérés de l'opposition pour arriver à ce qu'ils appellent un pacte, un accord qui constitue le fondement du régime démocratique. C'est le modèle qui était en place, preuve en est, le modèle espagnol en la matière. La majeure partie des transitions, dans ce qu'appelle Samuel Huntington, la troisième vague de transition vers la démocratie, c'était des réformes émanant du haut de la pyramide, sans révolte, sans révolution. Ces réformes s'accompagnaient de protestations, peut-être populaires, mais nous voyons que la majeure partie des réformes émanaient du haut de la pyramide. Même en Pologne, lorsque Solidarność, ce mouvement de solidarité qui avait commencé par un mouvement syndical pour aboutir à une révolution, même cette tentative de Solidarność a été vouée à l'échec. Mais lorsque la réforme a été remise en place dans l'Union soviétique, l'Église, les syndicats et les partis de l'opposition, ainsi que le Parti communiste, ont pu se mettre autour d'une table et négocier pour aboutir à un accord. Donc, dans l'histoire, il n'y a pas eu de transition vers la démocratie par le biais d'une révolution, même pas la Révolution française. La Révolution française a été suivie d'une première république, d'une deuxième république. Vous savez qu'il y a eu les Bourbons. Et puis peut-être Napoléon III, je ne sais plus, dit M. Azmi. Donc, il y a eu plusieurs États, plusieurs dynasties pour aboutir à la République, à la Troisième République. Et ils ont mis en France 80 ans pour le faire. Et je pense que la démocratie libérale s'est ancrée véritablement et s'est renforcée après la guerre mondiale. La Révolution n'a jamais mené à la démocratie nulle part. Les révolutions que nous connaissons et qui ont pour objectif la chute d'un régime de manière directe ne donnent pas lieu à la démocratie, elles donnent lieu à des dictatures. Preuve en est, la révolution bolchévique, la révolution iranienne en est un autre exemple.
Les protestations qui ont accompagné la transition démocratique concernaient les réformes. Depuis la fin du siècle dernier, il y a eu des réformes dans le monde arabe à cause d'une pression américaine, la fin de la guerre froide et d'autres raisons. Et moi, je pense que c'est à cause de la chute des prix du pétrole, des cours de pétrole dans les années 80. Ça a été une raison très importante pour opérer des réformes. Et ce qui s'est passé dans le monde arabe, et là, il s'agit d'une exception que j'essaie de travailler dans mon livre, c'est que les élites ne se sont pas divisées. Il n'y a pas eu de dissidence ni en Tunisie, ni en Jordanie, ni en Égypte. Dans tous ces pays où il y a eu des réformes, il n'y a pas eu de division au sein de l'élite, ce qui montre que ces pays, les pays arabes, sont des pays où on assiste à un règne de qu'on peut comparer à celui des sultans, c'est-à-dire il n'y a pas de division, on réforme et point à la ligne. Donc ces réformes ont eu lieu à la fin du 19e siècle, du 20e siècle. Donc, mais ces réformes n'ont pas réussi. Et d'où les révolutions arabes à partir de 2011. Et moi, j'appelle ça, c'est la contribution des Arabes dans les révolutions que j'appelle révolutions réformatrices, c'est-à-dire qu'il s'agit de révolutions qui ne veulent pas mettre la main au pouvoir, comme ce fut le cas en Iran ou ailleurs, comme ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Ces révolutions veulent la chute du régime, mais ne travaillent pas à le renverser, n'aspirent pas à le renverser personnellement. Ce qui s'est passé en janvier 2011, en Égypte et en Tunisie, les révolutionnaires n'avaient pas un programme, n'avaient pas de projet pour mettre la main sur le pouvoir, pour accéder au pouvoir. Et ils sont descendus dans la rue pour réclamer les réformes au régime en place. Les révolutions ne fonctionnent pas de cette façon. Les révolutions s'imposent. Et là, il s'agit de révolutions réformatrices. C'est la raison qui me pousse à dire qu'il y a de bonnes raisons pour étudier les transitions démocratiques. Je ne sais plus combien de temps il me reste. Il me reste 10 minutes, paraît-il. Pour ce qui est des autres contributions arabes, nous remarquons que les révolutions arabes ont eu lieu à partir de 2011 et les révolutions récentes, par exemple en Algérie. En Algérie, si l'armée n'aspire pas à prendre le pouvoir, à accaparer le pouvoir, je pense que là, toutes les conditions sont présentes pour que la révolution réussisse et qu'on ait un État dans ce pays au vrai sens du terme. Sauf, je répète, si l'armée ambitionne l'arrivée au pouvoir. Il y a eu deux transitions démocratiques dans deux pays arabes uniquement, la Tunisie et l'Égypte. Je ne pourrais pas aujourd'hui parler d'autres pays. Au Yémen, les protestations se sont transformées en guerre civile, alors que le début de la révolution était très prometteur. Il ressemblait à ce qui s'était passé en Espagne, mais avec l'intervention des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, cette protestation qui était de très haut niveau et très mature s'est transformée en guerre civile. En Libye, on a eu la preuve qu'il faudrait d'abord des institutions. Parmi les premières institutions à bâtir, c'est l'armée. Ensuite, il y a eu les interventions extérieures. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette expérience libyenne? Les élections ne sont pas forcément la première condition pour instaurer une démocratie. Il faut des institutions fortes. S'il n'y a pas d'institutions fortes et s'il n'y a pas une armée forte, les élections deviennent une raison, un motif de division. Et puis, il y a eu les agences internationales comme les Nations Unies ont mis la pression sur les Libyens pour tenir des élections, mais ce n'est pas cela qui mène à la démocratie, et parfois les élections peuvent être très nuisibles. Pour ce qui est de la Syrie, certains de mes collègues libéraux, moi je me considère démocrate libéral, certains estiment que l'oppression, s'il est permanent, assidu, et sans aucune contrainte est utile. Alors que, bon, normalement, quand on est libéral, on estime que la violence ne sert à rien. Mais là, on prétend que si la violence est continue, sans contrainte et de façon pérenne, réussie. On n'a imposé aucune limite dans l'usage de la violence au régime syrien. Voilà le premier facteur qui a permis au régime de se maintenir en place. Le deuxième facteur, c'est le renoncement des Occidentaux à cause de l'échec de l'Occident des États-Unis en Irak et parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir trouver un substitut. Et l'opposition armée n'avait pas une orientation claire qui permettait de voir un avenir clair. Et le troisième facteur, c'est l'intervention directe de l'Iran et de la Russie sur le terrain syrien et trancher la situation. Quatrièmement, il y a eu une montée d'islamisme au sein de certaines milices en Syrie, ce qui a mené à une alliance entre les minorités en Syrie. Et il y a eu aussi la majorité laïque qui a eu très peur. Et moi, j'estime qu'en Syrie, il y a une grosse majorité de laïcs, des laïcs qui appellent à la séparation entre la religion et l'État. Et donc, apparemment, dans la salle, il y a une remarque sur l'abandon du peuple syrien. Donc, je retourne à la Tunisie et à l'Égypte. Donc là, il s'agit des deux cas où il y a eu transition démocratique. La première, pour la Tunisie, ça a marché, et alors que pour l'Égypte, ça a été voué à l'échec. Voilà ma conclusion. Et là, on a deux situations qui se ressemblent. Mais pourquoi l'une qui a réussi et l'autre a échoué? Là, il faut regarder de plus près. Dans les deux pays, il y a une unité nationale, il y a des institutions dignes de ce nom dans les deux pays. Et contrairement à ce que je croyais, avant de travailler sur les chiffres que vous avez dans le document qui est en votre possession, des chiffres que vous allez trouver à la page 19, avant d'étudier ces chiffres, j'étais persuadée que la théorie de la modernité s'appliquait, c'est-à-dire, moi je considérais que la Tunisie était plus moderne que l'Égypte, et c'est la raison pour laquelle la révolution a réussi, parce que bon, le niveau d'éducation est meilleur en Tunisie. Bon, et j'ai été très étonnée de remarquer que le niveau d'éducation est le même, les revenus moyens sont presque les mêmes. Vous avez les chiffres, vous allez pouvoir voir la comparaison. Moi, j'ai été très surpris, même choqué, de constater la ressemblance, et donc ce qui prouve que la théorie de la modernité n'est pas applicable là. Lipset a revu sa théorie de la modernité en parlant dans les années 90 de la culture islamique. Bon, il est clair, quand on regarde les pays musulmans, il y a un pays quasi démocratique, un régime quasi démocratique en Turquie, peut-être en Indonésie. Et la prétendue que les anciennes colonies françaises ne peuvent pas se transformer et devenir démocratiques, mais c'est le cas des anciennes colonies britanniques. Mais voyons la situation sur le terrain le contredit, parce que la Tunisie, ex-colonie ou ex-pays sous mandat français, il est devenu démocratique, et l'Égypte, qui était ex-colonie et britannique, n'a pas réussi sans son expérience démocratique. Donc, voilà. Et je voudrais rajouter que l'interprète ne peut pas entendre ce qui se dit dans la salle. Pourquoi la révolution a réussi dans un pays et pas dans l'autre? Il y a un élément dans la transition démocratique qui est très important, c'est la culture des élites politiques. Les élites politiques tunisiennes étaient capables de négocier. Et en anglais, on dit bargaining. Et ceci n'est pas un mot honteux. Ils étaient capables de négocier. Ils étaient prêts à négocier avec le régime pour opérer le changement. Et après la chute de Ben Ali, il y avait des gens comme Ghannouchi et d'autres qui étaient de l'ancien régime qui ont continué. Et il y a eu négociation et on a pu instaurer la démocratie. Mais la différence, c'est que le régime a chuté grâce à la révolution. Il n'y a pas eu mort du dictateur, par exemple. Et donc, ceci est nouveau et très important. Donc, le premier élément important en Tunisie, c'est l'aptitude des élites à négocier et puis la maturité des électeurs. Il y avait une renaissance et le mouvement islamique al-Nada, il a fait preuve de souplesse parce que il ne s'est pas accroché au pouvoir. Il a eu peur d'être renversé comme les frères musulmans ont été renversés en Égypte. Et le courant de Bourguiba qui avait été mis à la marge par Ben Ali a joué un rôle important. Et ceux qui, il y avait un courant qui s'opposait à tout et on fait appel à l'armée pour intervenir. Il y avait donc une catégorie qui était prête à accepter l'armée pour arriver au consensus. Donc, en Tunisie, premièrement, la culture politique de l'élite. Pourquoi, pour moi, ça contredit la théorie? Parce que là, je parle de culture politique de l'élite et non pas du peuple. Au sein d'une dictature, la culture, il n'y a pas de culture démocratique pour le peuple. Dans une transition, on ne peut pas demander. Et on ne s'attend pas à ce que le peuple soit démocratique, mais il faut que les élites soient démocratiques. Ceci est un élément très important. Dans les deux pays, l'armée a désobéi au régime qui lui demandait de réprimer les révolutions. L'armée égyptienne et l'armée tunisienne n'ont pas obéi aux dictateurs, mais la différence est que l'armée égyptienne aspirait à prendre le pouvoir, alors que ce n'était pas le cas de l'armée tunisienne. Et là, il s'agit d'une nouvelle expérience arabe. Et donc, on ne peut pas procéder à une transition démocratique si l'armée s'y oppose. Dans ce, quand il y a une révolution, ou bien l'armée observe la neutralité, ou bien elle ne n'aspire pas au pouvoir pour pouvoir instaurer la démocratie. Et puis, il y a l'élément extérieur. Si le pays est important sur le plan géostratégique, là, le facteur extérieur externe devient de plus en plus important. Si le pays n'est pas important sur le plan géostratégique, là, il n'y a pas d'intervention de l'extérieur, ce qui est le cas de la Tunisie. La Tunisie n'a pas de pétrole. Elle n'est pas à la frontière d'Israël et on ne trouve pas au sein de ce pays des éléments, des facteurs qui peuvent intéresser le monde. Donc, aucun pays n'a prêté la moindre attention de la transformation de la Tunisie en démocratie, alors ce que n'est pas le cas de l'Égypte. L'Égypte est le plus grand pays arabe. Alors, si l'Égypte devient démocratique, alors les régimes du Golfe seront menacés. Et dans ces pays-là, des pays du Golfe, il n'y a pas d'agenda démocratique. L'Arabie saoudite a peur de la démocratie. Parce que c'est un grand pays. Les Émirats, les petits pays ne craignent pas la démocratie, par exemple, comme les Émirats arabes unis. Ils jouent, les Émiriens jouent un rôle avant-gardiste à l'envers, si je puis dire. L'intervention américaine, et Kirkpatrick a remarqué cela, c'est-à-dire un appui américain, un soutien américain pour un coup d'État de l'armée en Égypte. Et il révèle dans son livre des rencontres entre des éléments de l'armée égyptienne et des responsables américains qui les encourageaient à opérer ce coup d'État. La polarisation qui a eu en Égypte entre les laïcs et les frères musulmans et le fait que les frères musulmans qui ont gagné les élections avec 51% pendant les élections ne pouvaient pas gouverner seuls parce que parce qu'il fallait utiliser les forces de la révolution, mais les forces de la révolution étaient divisées, comme je l'ai dit, entre laïcs et islamistes. Et cette division a remplacé la division entre démocratique et antidémocratique. Et ceci a permis à l'étranger de s'immiscer, manipuler quand il y a une révolution de cette ampleur dans un pays comme l'Égypte, les attentes sont très importantes et donc la colère est au même degré niveau d'importance et là ça ouvre la porte aux manipulations et aux interventions de l'étranger, ce qui n'a pas eu lieu en Tunisie à cause de la culture des élites politiques. Deuxièmement, c'est l'absence de toute aspiration à saisir le pouvoir de la part de l'armée. Et si je puis dire, la non-importance géostratégique du pays sur l'échiquier international. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention.